Eh bien, je voulais justement vous dire que M. Jérôme Bourbon est un talentueux journaliste. Car en quelques mots, il est capable de définir clairement ses positions politiques. Voici un exemple. Et voici ce qu'il vient d'écrire récemment sur la trop fameuse Constitution européenne. Je le cite. Il met d'abord un titre à cette Constitution et il la nomme ou l'appelle une constitution mortifère. Voici son texte. Comment approuver une constitution européenne qui voudrait sceller dans le marbre les abdications de souveraineté consenties par des gouvernements indignes et prévaricateurs? Il n'est pas l'Europe qui tiennent sans flamme, sans spiritualité, sans valeur commune, sans transcendance. Or, l'Europe qu'on nous propose, ou plutôt qu'on nous impose, nie explicitement son héritage chrétien, se complaît dans le matérialisme, dans l'hédonisme et dans un athéisme pratique. Il n'est question que d'inflation, de croissance et de taux d'intérêt. Est-ce ainsi que l'on pense redonner une espérance à notre jeunesse? Voilà les questions qu'il pose, voilà ce qu'il écrit, et je crois que vous êtes d'accord avec moi, il se définit très clairement. Le titre de sa conférence est donc « Comment résister au nouvel ordre mondial et à l'euro-mondialisme ?» Et nous, nous allons bien comprendre qu'il s'agit pour nous de savoir comment combattre pour maintenir la souveraineté de la Suisse, la souveraineté de notre pays. Voilà, c'est ça Jérôme Bourbon. J'aimerais vous remercier d'avoir accepté l'invitation que nous avons lancée, d'y avoir répondu spontanément, avec gentillesse et même avec plaisir. Et je vous cède la parole.
Merci. Bien, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et je remercie le mouvement chrétien conservateur d'avoir bien voulu m'inviter à une conférence. Et je remercie d'être venus très nombreux. Je crois que c'est la première fois que je m'adresse devant un public si nombreux, ce qui prouve que les Suisses sont encore plus militants que les Français. Et pourtant, Dieu sait qu'on devrait être militant en France, puisque vous n'êtes pas sans savoir, à travers sans doute les journaux, l'actualité télévisée et radiophonique, que la France connaît des événements brûlants, dans tous les sens du terme, si j'ose dire, depuis plusieurs semaines. Ce qui fait d'ailleurs les délices de la presse américaine et anglo-saxonne qui, dès qu'il se passe quelque chose de mal en France, se réjouit sans réserve. Et j'ai vu qu'il y avait des journaux outre-Atlantique qui ont dit « Paris brûle-t-il ? » Et il est certain que c'était à peine une exagération, puisque il est clair que ce que nous vivons, non seulement dans la région parisienne, où a commencé l'incendie, mais qui s'est répandu dans un certain nombre de villes, d'importance moyenne ou de grande importance, et même dans des zones rurales. Même dans des zones rurales, il y a eu des événements extrêmement graves. Eh bien, ce que nous vivons, à n'en pas douter, ce sont les prémices d'une guerre civile. L'histoire retiendra peut-être que la guerre civile en France a commencé à l'équinoxe 2005, à l'automne 2005. En tout cas, il est certain que ce qui est en train de se passer, qui n'est pas encore achevé, parce que ce n'est pas parce que les radios et les télévisions en France n'en parlent plus que le phénomène a disparu. Savez-vous, mesdames et messieurs, que depuis le 1er janvier 2005, près de 30 000 voitures officiellement ont brûlé. Et ça n'est là qu'un aspect parmi tant d'autres, parce que ces trois dernières semaines, tout a brûlé en quelque sorte, qu'il s'agisse des gymnases, des écoles, certaines églises d'ailleurs, ont été également touchées volontairement bien sûr, et un certain nombre, j'ai parlé de voitures, mais c'est le cas également de véhicules de pompiers, de la police et de la gendarmerie, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de jeunes halogènes qui n'ont d'autre ambition que d'abord de brûler des voitures, et lorsque les pompiers viennent faire leur devoir civique pour éteindre les flammes, eh bien, ils viennent à nouveau agresser, et dans un but même parfois meurtrier, eh bien, les pompiers. Et c'est donc ce que nous avons vécu ces dernières semaines, sans discontinuité. Et le plus dramatique, parce que ces événements sont dramatiques en soi, mais ce n'est peut-être pas le plus affolant encore. Le plus affolant, c'est la réponse des élites entre guillemets, des élites autoproclamées, politiques, médiatiques, religieuses, journalistiques, qui refusent de voir la réalité en face, et parce que la cause véritable, ou les causes véritables de ces graves événements, de ces graves incidents, ne sont jamais mentionnées. Et je dois dire que celui qui a été peut-être, qui a fait le discours qui donne de véritables frissons, c'est ce qui nous tient lieu de chef de l'État, c'est-à-dire le premier délinquant de France, Jacques Chirac, puisque... D'ailleurs, je dois dire que quand il appelle au respect de la loi, plusieurs fois il a appelé au respect de la loi, mais comment voulez-vous que des jeunes immigrés ou français d'ailleurs puissent... respecter la loi, lorsque l'on sait que celui qui est le résident de la République, eh bien, n'est arrivé à la magistrature suprême qu'en mettant en coupe réglée la première ville de France qu'il dirigeait pendant 18 ans, et que c'est grâce à un financement occulte de la mairie de Paris, du conseil régional d'Île-de-France et de son parti politique, le RPR, le Rassemblement pour rien, que finalement il a réussi à se hisser à la magistrature suprême. Je dois dire que le financement public, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, n'aurait pas suffi s'il n'avait pas promis à M. Serge Klarsfeld également de reconnaître la France coupable pour sa politique pendant l'occupation allemande. Car il est certain que M. Klarsfeld, président des fils et petits-fils de déportés juifs de France, a fait tout ce qu'il fallait, a fait actionner ses réseaux pour que Jacques Chirac soit élu à la présidence de la République. Hein, cela est d'une évidence aveuglante. Enfin, quoi qu'il en soit, eh bien, il est évident que Jacques Chirac est absolument effrayant pendant 14 minutes. D'ailleurs, vous avez vu qu'il a rechaussé, je ne sais pas si vous avez pu voir la télévision française ou TV5, mais vous avez pu voir qu'il a rechaussé ses lunettes. Lorsque sa fille Claude qui brûle de le voir épouser toutes les modes, hein, vous savez, il y a 20 ans c'est elle qui était à l'origine de la culotte de Madonna, où elle disait qu'il fallait qu'il mette des blue jeans pour essayer de faire en sorte d'avoir l'électorat jeune, l'électorat branché. C'est elle qui est à l'origine également de sa position en faveur de la discrimination, de la prétendue discrimination contre les homosexuels, le délit d'homophobie. C'est Claude Chirac qui est à l'origine de tout cela. Eh bien, il est certain que Jacques Chirac, ce qui était effrayant dans ce discours, c'est qu'il n'a eu aucun mot pour les victimes, qui sont d'abord les Français de souche, ceux qui, bien souvent, hélas, par naïveté, l'ont élu et parfois réélu. Et la seule chose qu'il a trouvé à dire pendant plusieurs minutes, c'est la lutte contre les discriminations. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « je vais réunir les présidents de chaînes de télévision, de l'audiovisuel, les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats, les chefs d'entreprise, les syndicats, pour faire en sorte que, eh bien, la société reflète davantage la diversité de nos populations. » Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'il y aura davantage encore de black et de beurre à la télévision et dans tous les secteurs de la vie publique. Voilà ce que ça veut dire. D'ailleurs, c'est le concept de discrimination positive, c'est-à-dire en clair de préférence étrangère, de préférence anti-française, eh bien, qui est accélérée en quelque sorte. Quand on pense, mesdames et messieurs, que dans les années 70, on traitait Chirac « facho Chirac », disait la gauche, « facho Chirac hein », et que c'est quand même l'électorat de droite, l'électorat conservateur, qui a permis à cet homme extrêmement médiocre, hein, qui affiche d'ailleurs une sérénité dans l'incompétence et la médiocrité qui force le respect et l'admiration, je veux dire. Eh bien, hein, ce qui prouve que plus on est médiocre, plus on réussit dans la vie, hein, c'est une leçon à retenir. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit « soyez ternes ». Si vous voulez réussir, soyez éternel. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, donc Jacques Chirac, eh bien, il est certain que c'est quand même l'électorat de droite qui a fait sa carrière. Ce qui prouve que la bêtise en politique donne une idée de l'infini, et que parfois il y aurait de quoi être... et que parfois il y aurait de quoi être misanthrope. Mais enfin, quoi qu'il en soit, rappelez-vous quand même quand il a été réélu contre Jean-Marie Le Pen le 5 mai 2002. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais place de la République, eh bien, il y avait des drapeaux algériens, des drapeaux tunisiens, que des drapeaux qui effectivement célébraient la victoire de Chirac, ce qui prouve bien que c'était la victoire de l'anti-France. Et d'ailleurs, son épouse Bernadette avait l'air assez effrayée, je dois dire, devant ces populations mélangées et métisses. Effectivement, elle n'a pas été élevée avec cette population, elle était un petit peu inquiète. Et donc, on la comprend un peu. Bon, mais il faut dire que, quand même, Jacques Chirac en 2002, et c'est ça quand même qui est peut-être le plus effrayant, c'est qu'on n'a quand même pas forcé, bien sûr, qu'il y a eu une manipulation médiatique, politique, épouvantable pendant 15 jours, la quinzaine de la haine et de la folie, à tel point que, même quand on mettait France Info, même dans la séquence cinéma, c'était contre Le Pen. Bon, mais néanmoins... 82,21% des exprimés, 62% des inscrits ont voté Chirac quand même. Hein. Dans le secret de l'urne, les gens pouvaient voter pour les 5 lettres, Le Pen. Bon, et ben ils ont préféré voter Chirac, ce qui est quand même invraisemblable. Pour une fois qu'ils avaient un véritable choix de société qui leur était offert, eh bien, ils ont fait le choix de l'imposture chiracienne. Et j'ai souvenance que les gazettes, le lendemain de cette élection plébiscitaire, de cette élection à l'africaine, eh bien... disait « La France a gagné, vainqueur les Français ». Je me rappelle la une du Parisien du lendemain, « Vainqueur les Français, la France a gagné ». Oui, mais quelle France ? Quelle France ? La France de Zidane, peut-être, mais sûrement pas la France française. Et d'ailleurs, on le voit bien maintenant, 3 ans et demi plus tard, avec les événements catastrophiques que l'on connaît. Alors, ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est cette négation du réel qui fait que le mot « immigration » n'a jamais été prononcé et que si les incendiaires sont dans la rue, les pyromanes sont bien au gouvernement, hein, et dans les médias et partout, puisque depuis 30 ans, on a criminalisé tous les gens qui disaient fort courageusement et fort lucidement qu'il était criminel et fou de faire venir par millions des immigrés, non seulement en France, mais cela vaut pour tous les pays d'Europe et même de l'Occident blanc et chrétien, puisque la Suisse, évidemment, est également concernée fortement. D'ailleurs, vous avez pu voir que ce n'est pas simplement en France que les voitures et autres et les immeubles ont brûlé, mais c'est également, vous avez vu que en quelque sorte, ça a fait boule de neige en Belgique, à Bruxelles, ça a fait boule de neige en Allemagne, puisqu'il y a eu des voitures qui ont brûlé à Berlin, à Cologne, et puis il arrive même qu'il y ait des voitures qui brûlent même chez vous, et même dans l'Europe du Nord, il y a aussi une délinquance et une criminalité qui ne cesse de s'accroître. Donc, bien sûr, la France, qui est toujours la première à donner mauvais exemple, hélas, depuis 2 siècles, eh bien, à la communauté immigrée, la communauté étrangère la plus forte. D'ailleurs, je dois dire que moi-même qui habite à Paris maintenant, je vois d'année en année... l'occupation, si j'ose dire, de plus en plus forte de la capitale. C'est absolument effrayant. Par exemple, moi-même, j'habite dans le 13e arrondissement, qui est une communauté asiatique. Eh bien, je dois dire que depuis quelques mois, il y a de plus en plus de Noirs, je ne sais pas d'où ils sortent. Comme disait Dieudonné dans un sketch, on peut le citer, puisqu'il est métisse, il disait, en se moquant, je ne sais pas d'où ils sortent, ils doivent sortir des bouches d'égout, mais c'est Dieudonné qui dit ça. Bon, je ne me permettrai pas, je m'en laisse la responsabilité. Lui peut le dire. Bon. Mais quoi qu'il en soit, il est certain que c'est effrayant de voir ça. C'est qu'en 5 ans, l'immigration asiatique en France a doublé. En 5 ans. Hein. Et parce que justement, on dit toujours l'immigration islamique. Certes, il y a une immigration islamique de plus en plus importante, mais c'est du monde entier qu'on se répand sur le vieux continent. Hein. D'Amérique latine, d'Asie, d'Extrême-Orient, du Maghreb et d'Afrique noire. Et je dois dire que les médias ont quand même reconnu que dans les émeutes auxquelles nous avons affaire, les jeunes noirs étaient beaucoup plus en pointe, dans tous les sens du terme, que les beurs. Et que ce qui les motive, comme l'a dit un écrivain camerounais, donc on peut la citer, eh bien, c'est, disait-elle, l'esclavage et le racisme anti-blanc. Parce qu'il est évident qu'il y a eu une culpabilisation de l'homme blanc, entretenue d'ailleurs par l'éducation nationale, par les médias, et continue, et en quelque sorte, il y a le triple crime, ou prétendu crime, de l'homme blanc, qui est en fait la colonisation, l'esclavage et la Shoah. Hein, c'est évident que c'est ce triple crime qui est sans cesse répété, ressassé, et qui fait que finalement les populations qui viennent sur le vieux continent, eh bien, ont la haine, comme elle disait elle-même. Rappelez-vous du film La haine de Mathieu Kassovitz, qui d'ailleurs défendait l'agressivité de ces jeunes immigrés. Et puis, que voulez-vous ? Il est évident que il est quand même inouï que, et c'est là où on voit quand même que, c'est sans doute d'ailleurs en grande partie le fait que les peuples ne soient plus chrétiens et n'aient plus d'idéal, n'aient plus aucune transcendance, n'aient plus de foi, n'aient plus de vertu, pour qu'ils acceptaient de se laisser envahir de telle façon. On n'est plus à l'époque de Charles Martel. Hein, parce que quand même, il est évident que avoir accepté par millions des étrangers sans réagir, et en continuant à voter, à faire voter pour des forces politiques de gauche ou de pseudo-droite qui encourageaient cette invasion, soit de façon ouverte, soit de façon hypocrite, eh bien, c'est quand même assez hallucinant, il faut bien le dire, quand même. Puisque moi-même, j'ai souvenance, j'ai été, lorsque j'étais plus jeune, c'est-à-dire très jeune, eh bien, candidat du Front National à plusieurs élections, ben, je vous rappelle, dans ma famille ou près de mes amis, j'étais regardé comme un mouton noir, hein, y compris par des milieux bourgeois qui pourtant ne souhaiteraient pas donner leur fils ou leur fille à marier un Turc ou un Noir, c'est évident, mais qui considéraient que c'était le mal absolu de voter, d'être candidat pour le parti présidé par Jean-Marie Le Pen, hein, c'est évident. Bon, donc de ce point de vue-là, on ne peut pas dire non plus qu'il n'y ait pas une responsabilité, au moins indirecte, du peuple, hein, également, par sa lâcheté, par son manque de lucidité, c'est évident. Bon, mais disons, je crois qu'il faut quand même s'arrêter sur les causes. La première cause, elle est évidente, même si on la cache, c'est évidemment l'immigration massive, incontrôlée, extra-européenne, qui ne cesse depuis 30 ou 40 ans de se répandre en France. Et pas seulement en France, mais dans tous les pays d'Europe. Puisque vous avez vu que, somme toute, lorsque les gouvernements nous font croire que l'immigration est tarie ou qu'elle est ralentie, rien n'est plus faux. Et quand on nous dit que le nombre d'étrangers n'augmente pas, à supposer d'ailleurs que les statistiques soient vraies, ce qui est déjà un autre problème, eh bien, on cache les chiffres par les naturalisations automatiques. Hein, puisqu'il est évident que par le phénomène du droit du sol, des naturalisations massives, eh bien, il est très facile d'être français de papier. C'est évident, ça. Et ce qui est absolument dramatique, parce que tous ces jeunes, par exemple, qui sont des agités du cocktail Molotov et de la boule de pétanque, parce que j'ai vu qu'il y en a qui lançaient des boules de pétanque sur la police, les pompiers, etc., tout ce qui est susceptible de tuer ou de blesser est utile. Et donc, eh bien, ces jeunes, pour beaucoup, ils ont une nationalité française, puisqu'on la distribue comme un ticket de métro, la nationalité française, hein, et elle sert pour un certain nombre de prestations sociales, d'allocations familiales, et autres, c'est évident ça. Parce que lorsqu'un immigré entre en France ou dans n'importe quel pays de l'Union européenne ou du vieux continent, eh bien, il faut le loger, ce qui coûte une fortune. Il faut le soigner. Et lorsqu'ils viennent avec des syphilis, des sida, des cancers, ça coûte absolument des fortunes. Il faut en avoir conscience de ça. Bon, il faut l'école pour leurs enfants, qui ne feront rien pour la plupart. Mais enfin, il faut quand même le payer. Ou au pire, ils la brûleront. Parce que justement, j'entends la gauche et la droite dire « Mais il faut encore plus de moyens, il n'y a pas assez de moyens. » Mais depuis 20 ans, 30 ans, quand même, la politique dite de la ville, encore une hypocrisie, un jésuitisme, pour ne pas dire la politique en faveur des immigrés. Hein. Quand on parle aussi de la crise des banlieues, ce n'est pas la crise des banlieues, ce n'est pas la crise de la ville, c'est la crise due à une immigration massive et incontrôlée. Eh bien, on nous dit « Il faut plus la gauche, le Parti communiste, le Parti socialiste, et même une partie de la fausse droite, il faut plus de moyens, il faut faire davantage. » pour les écoles, pour ces jeunes. Mais je veux dire, à chaque fois qu'on leur fait des gymnases flambant neufs, à chaque fois qu'on répare les ascenseurs, qu'on repeint les boîtes aux lettres, eh bien tout de suite, hop, ça saute au cocktail Molotov, au mieux c'est tagué, au pire c'est brûlé, donc ça ne les intéresse pas. Donc c'est vraiment grotesque, c'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond. Et ça n'est pas étonnant que, je ne sais pas si vous connaissez le déficit officiel de la France, 62 milliards d'euros, et la dette publique est de 1100 milliards d'euros. C'est évident que l'immigration en France coûte des centaines de milliards d'euros par an, et qu'il n'y a aucun moyen de la tarir, puisqu'elle ne cesse de s'abattre, de continuer sans cesse. Et puis comment je dirais qu'il y a encore de la place en France, hein, y a encore beaucoup de forêts, il y a encore beaucoup d'espaces verts, donc on peut continuer à les accueillir pendant des décennies encore, c'est sûr ça. Bon, donc c'est un puits sans fond. Hein, bon. Alors, il est évident que la première cause, c'est celle-là. C'est l'immigration massive et incontrôlée. Et là, je vais vous dire quelque chose qui est peut-être un peu dramatique, mais il est évident qu'elle est voulue, cette immigration. Car si elle n'avait pas été voulue, devant les catastrophes qu'elle engendre, les gouvernements, à un moment donné, auraient fait marche arrière. Et quand on voit les situations apocalyptiques, catastrophiques, qu'on voit cette semaine, qu'on ne peut plus cacher maintenant, que les médias ont essayé de cacher, mais les gens voient quand même, derrière leur capuche, ils voient bien que ce n'est pas des blancs, quand même. Bon. Et puis, on reconnaît l'accent, on reconnaît les musiques, on reconnaît le style. Bien. Eh bien, il est évident que... Et on ne fait pas marche arrière. On continue. D'ailleurs, c'est comme si vous voulez, vous êtes dans une voiture, vous êtes à 180 à l'heure, vous voyez qu'il y a un mur en béton devant vous. Eh bien, au lieu de freiner, de piler et de s'arrêter, et puis après de faire marche arrière, après avoir repris son souffle, eh bien là, on continue. On dit, on va jusqu'au bout, on continue, on est à 180, on voit le mur, on dit, on va voir ce que ça va donner dans le mur. Tiens, voilà. Eh bien, on continue. Eh bien, c'est ça qui est quand même effrayant. Et c'est là où, quand même, les gens qui ne croient pas au complot, moi je veux bien, mais je veux dire quand même, s'il n'y a quand même pas un certain nombre de forces occultes qui ont décidé l'anéantissement du vieux continent blanc et chrétien, il me semble que c'est quand même assez évident. Il me semble quand même que, comme dit l'adage, si la nuit vous êtes sous un arbre et qu'il en tombe des pommes, il y a de fortes chances que vous soyez sous un pommier. Bon, ben là, de la même façon, il me semble que quand même, devant des évidences aussi aveuglantes, il semble quand même assez évident que c'est quand même voulu, puisque que ce soit la fausse droite ou la vraie gauche au pouvoir, on a affaire à la même politique, qui est une politique quand même de haine de la France et des Français et des indigènes et de tous les pays d'Europe quand même, parce que il est évident que les premières victimes, ce sont les Français, et les Français les plus modestes, les plus pauvres, qui sont véritablement les laissés pour compte, des citoyens de seconde zone dans leur pays. Et il y a véritablement une opération de substitution de population qui est en œuvre, et qui est en œuvre véritablement dans tout l'Occident. Il faut en avoir conscience de ça. Et cette opération de substitution, elle repose sur deux piliers essentiels, qui sont un peu les deux mâchoires de la tenaille. C'est d'une part l'avortement légalisé et remboursé, c'est-à-dire qu'on empêche en quelque sorte, on favorise le fait qu'il y ait de moins en moins d'indigènes, c'est-à-dire de blancs, par l'avortement légalisé et remboursé qu'on encourage, par la contraception massive qu'on encourage dès le collège et le lycée, puisque vous savez maintenant que même pour la pilule dite du lendemain, c'est-à-dire la pilule abortive, c'est-à-dire qui tue, eh bien, en France, dès le collège, dès la classe de 3e, on peut la distribuer à des jeunes filles sans l'autorisation des parents, sans et même contre l'avis des parents. Donc on ne dit pas qu'il n'y a pas une volonté mortifère dans ce pays et au-delà de la France, dans tous les pays d'Europe. Et il est évident que, d'autre part, on a démantelé, pan après pan, toute la politique familiale depuis le début des années 60. Hein, c'est absolument évident. Et en même temps qu'on a favorisé la contraception massive, l'avortement massif, et qu'on a détruit petit à petit ou réduit les allocations familiales et la politique familiale, on a fait venir par millions des immigrés dont on a favorisé l'invasion par le regroupement familial, par la carte automatique de 10 ans renouvelable. Et il est évident que quand on fait le lien entre ces mesures, on voit très bien la volonté politique qui est derrière tout ça. Et une volonté politique qui n'est pas seulement hexagonale, mais qui touche tous les pays d'Europe. C'est véritablement une citadelle assiégée, encore que ce ne soit même pas vraiment une citadelle, puisqu'on a supprimé les portes, les fenêtres, les remparts, les murailles. C'est-à-dire qu'on a détruit les défenses immunitaires dans ce que, au nom d'une idéologie que le journaliste Wipo Wells avait appelé un sida mental. Et je veux dire que c'est pas un hasard qu'on soit dans le règne du sida, syndrome d'immunodéficience acquise. C'est pas un hasard, parce que finalement, c'est une forme également de sida mental, ce que nous vivons à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'en principe, là, on doit avoir, l'être humain, il doit avoir un instinct de survie. Un instinct de survie. D'ailleurs, par exemple, quand quelqu'un vous frappe, vous avez un réflexe tout de suite de lui rendre l'appareil. Hein. Bon, alors après, on peut appliquer l'évangile et ne pas attendre l'autre jour. Mais ce qu'on doit faire au niveau individuel, on n'a pas le droit de le faire au niveau collectif, c'est évident, sinon c'est un véritable suicide. Or, là, en l'occurrence, il est évident qu'on a détruit systématiquement les défenses immunitaires, les défenses vitales. D'abord, en culpabilisant les gens, en les tétanisant, puisqu'on sait très bien que la parole n'est plus libre dans nos pays. La parole n'est plus libre, on n'a plus le droit de rien dire. On n'a plus le droit de rien être, à la limite, si ce n'est une sorte de spaghetti sur pâte. Et je dois avouer que toutes les lois muselières qui se sont développées dans la quasi-totalité des pays d'Europe depuis une quinzaine d'années, et là encore, hélas, la France a donné un mauvais exemple, d'abord avec la loi Pleven en 72, puis la loi Guesso en 1990, la loi communiste Guesso, eh bien, et qui s'est étendue dans tous les pays, empêche de dire la vérité sur l'immigration, sur la question des races, parce qu'on nous parle de fracture sociale, mais c'est une fracture ethnique, une fracture raciale, hein, c'est évident ce qui se passe à l'heure actuelle. Or, on a criminalisé la race, il ne s'agit pas de faire un absolu métaphysique de la race, mais Pie XI, dans son encyclique « Mein Brennender Sorge », pourtant très critique sur le national-socialisme, reconnaissait lui-même à l'époque que l'État, la race, la nation étaient des composantes essentielles et fondamentales de l'organisation humaine. Hein, c'est le pape qui parle. Bon, alors, il me semble qu'il y a une criminalisation depuis 1945 et depuis Nuremberg de la race qui est absolument contre nature, qui est absolument antinaturelle, car elle a son importance, c'est évident. D'ailleurs, si bon Dieu a créé des nations, des peuples, des races, d'abord c'est sa souveraineté de l'avoir fait, sa liberté souveraine, et c'est que ça a forcément un sens. Et que donc, le métissage généralisé, obligatoire, auquel qu'on nous impose, eh bien, est absolument suicidaire et criminel. Donc, cette fracture raciale ethnique, on n'a pas le droit d'en parler, puisque donc ces lois muselières l'interdisent, comme elles interdisent de porter un regard critique, et j'en sais quelque chose, sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Or, il est évident que ne pas pouvoir poser un regard libre sur cette période empêche de comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est évident, ça. Parce que c'est Maurice Bardèche lui-même qui explique dans Nuremberg ou la Terre promise que ce qui s'est passé à Nuremberg, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Ça va beaucoup plus loin que la condamnation de quelques dignitaires d'une puissance vaincue, la puissance allemande. C'est, dit-il, à l'avenir, eh bien, faire en sorte de nous imposer d'abord une conception démocratique à perpétuité, mais, dit-il, avec ce qu'on a décidé à Nuremberg, plus personne ne pourra dire « ce champ m'appartient, vous n'avez pas le droit d'y être, c'est mon père qui l'a acheté, c'est mon père qui l'a travaillé, vous n'avez rien à faire ici, ce champ est à moi, ce pays est à nous, vous n'avez rien à y faire. » Parce que, justement, ça, ça sent le nationalisme. Et le nationalisme, le racisme, le militarisme, on sait où ça a mené. Ça a mené aux camps de concentration, aux millions de morts, donc tout ça, c'est criminogène. Donc vous n'avez pas le droit de penser tout ça. Et il est évident que c'est ce qui se passe depuis 60 ans, et ça n'a cessé de s'accroître, surtout, je dirais, depuis Vatican II, depuis mai 68, puisque, au fond, les générations qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, un peu partout en Europe et aux États-Unis d'Amérique, au Canada, etc., c'est la génération 68arde, c'est-à-dire une génération qui disait « il t'interdit d'interdire », mais qui en fait n'a jamais autant interdit la liberté de penser et la liberté de l'esprit, et qui au fond a recyclé les vieilles thèses de l'anarchisme finalement et du libertarisme, c'est-à-dire en fait, et qui a une haine de la loi naturelle et de toute transcendance. C'est évident, ça. Bon, et donc, nous vivons eh bien, sous le joug de ce totalitarisme qui ne dit pas son nom et qui renforce, alourdit sa chape de plomb d'année en année, de mois en mois. Parce que les actualités récentes sont assez terrifiantes, parce qu'au moment même où les immigrés mettent à feu et à sang une grande partie de nos villes et de nos banlieues occupées en France, eh bien, j'observe que qui est-ce qu'on emprisonne un peu partout ? Eh bien, ce sont des historiens libres. C'est Germain Rudolph qui a été arrêté aux États-Unis, qui a été extradé en Allemagne. Il sera dans la prison de Stuttgart. C'est Erzündel qui est à la prison de Mannheim, après avoir été arrêté aux États-Unis, puis transféré au Canada, et puis maintenant, donc, il est en Allemagne, où probablement il ne sortira jamais des geôles allemandes. Enfin, il n'a pas perdu son sens de l'humour, puisqu'il a dit « au moins, finalement, je suis content d'être retourné chez moi, parce qu'au moins, j'ai une cellule où j'ai de quoi écrire, un crayon, une chaise, puisqu'il n'avait même pas ça dans les geôles américaines. » Mais le plus tragique, c'est que il a sympathisé avec des détenus qui sont là pour différentes raisons. Il y a de tout dans ces prisons, des criminels de droit commun et autres. Et ce qui est le plus tragique, c'est que aucun n'a compris la valeur ou l'intérêt de son combat. Hein. On dit, mais pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? Vous êtes en prison, vous gâchez votre vie, etc. Il ne comprenait pas finalement qu'on peut parfois se sacrifier pour ce que l'on pense être la vérité, pour ce que l'on croit être la défense de la vérité historique et somme toute, le sens du sacrifice, le sens de l'héroïsme. C'est vrai qu'on ne l'a plus. Et c'est peut-être aussi ce qui explique nos difficultés, c'est que lorsque on nous apprend dans les livres d'histoire, héros qui n'hésitaient pas à mourir pour une cause sacrée, les saints, les martyrs, ben on se dit que justement, c'est d'être ce qui manque. Et c'est même très certainement ce qui manque à notre monde moderne. Eh bien, c'est précisément de ne plus être capable de savoir se sacrifier pour une cause qui nous dépasse. Et c'est aussi l'une des raisons de nos difficultés. Alors, donc, quoi qu'il en soit, donc je l'ai dit, il est certain que la première cause de ces émeutes, c'est l'immigration massive. Mais la deuxième, il est évident que c'est, et je lui ai déjà un peu répondu, c'est somme toute le fait qu'il y a un déracinement généralisé. D'abord, bon, ben, ces jeunes, c'est vrai que la plupart ils sont nés en France, pas tous d'ailleurs, mais ils sont nés en France, mais ils ne sont ni de France, ni d'ailleurs. Finalement, ils ne sont de nulle part. Et le drame, c'est qu'ils seront, pour la plupart, on peut le dire entre nous, pour la plupart, ils seront irrécupérables. Parce qu'il est évident qu'à 15 ans, qu'à 18 ans, qu'à 20 ans, qu'est-ce que vous voulez? Si déjà, ils n'ont manié que le cocktail Molotov, qu'ils n'ont aucun idéal, aucune transcendance, comment voulez-vous les récupérer? Ça relève du miracle. Et de ce point de vue-là, on a créé volontairement une situation où il y a des millions de jeunes issus de l'immigration, eh bien, qui sont destinés à être ou des terroristes, ou des délinquants, des gens de la grande criminalité. C'est ça qu'il faut, dont il faut avoir conscience. Et c'est quelque chose qui est absolument tragique. Et surtout qu'il n'y a même pas un mot d'ordre derrière leurs émeutes. Il n'y a même pas... D'ailleurs, c'est amusant, en somme toute, c'est que j'ai vu que la voiture de Krivine, le chef historique de la Ligue communiste révolutionnaire en France, eh bien, avait été menacée par les flammes parce qu'il habite à Saint-Denis, rue Jean Jaurès, où il y a le siège du quotidien L'Humanité, et tous les jours, il y a des voitures qui brûlent. Et alors, il y a l'hebdomadaire Marianne qui est allé interroger Krivine et qui lui a dit « Mais ces jeunes, peut-être qu'ils pourraient devenir communistes révolutionnaires, ils pourraient vous aider pour le grand soir anticapitaliste. » Pour la révolution. Et finalement, Krivine, désabusé, a dit « Ah ben non, il n'y a aucune organisation politique qui sache leur parler et qui, dans laquelle ils puissent avoir confiance. » Voilà, donc en réalité, il les soutient quand même, parce que comme il sait qu'il ne pourra pas avoir beaucoup de soutien chez les ouvriers français, il utilise les masses halogènes en espérant qu'un jour elles pourront lui servir pour créer du désordre en France. Mais en réalité, c'est du nihilisme. C'est du nihilisme et de la barbarie à l'état pur. La seule chose qui les motive, c'est la haine du blanc, la haine de la France, telle que l'expriment d'ailleurs depuis des décennies des chanteurs de rap, avec d'ailleurs, il faut bien le dire, l'approbation d'un certain nombre de manières de la grosse distribution, que ce soit le patron de la FNAC, de Virgin Megastore et de tous ces grands magasins qui ont fait une fortune sur des chants de haine hein, qui appelaient à la destruction de la police, de l'armée, etc. Mais vous voyez, le plus tragique peut-être dans la situation dans laquelle nous vivons, c'est que beaucoup de métiers, beaucoup de corps de métiers qui sont tout à fait respectables en soi, la police, l'enseignement, être pompier, et je veux dire, c'est vrai, des enfants, il y a beaucoup d'enfants quand ils jouent par exemple avec une petite voiture de pompier, ils disent tiens, j'ai envie d'être pompier ou j'ai envie d'être policier, etc. Mais à l'heure actuelle, comment dire à un enfant plus grand de faire ce métier-là alors que ça n'a plus aucun sens, puisque ce sont les pompiers, ce sont les policiers eux-mêmes qui ont mon accusation dès qu'ils touchent le doigt d'un halogène. Et qu'il faut savoir que le gouvernement français a donné des instructions très strictes aux policiers pour ne surtout pas aller au contact des émeutiers et autres incendiaires, parce qu'ils craignaient qu'il y ait des morts ou des blessés parmi les immigrés, ce qui aurait créé une révolution encore plus forte. Hein. Je ne sais pas si vous rappelez l'affaire Mali Boussekin en 86, c'est là, lorsque des policiers, malencontreusement, avaient quelque peu tabassé un maghrébin handicapé qui avait participé à des manifestations estudiantines contre le gouvernement Chirac, eh bien, ça a fait un scandale épouvantable. Bon. Eh bien, donc, on ne touche absolument pas... Et d'ailleurs, les seuls blessés, ce sont les policiers et les pompiers. Vous remarquerez qu'il n'y a eu aucun blessé parmi les incendiaires et les émeutiers. C'est bien la preuve qu'on ne va pas au contact de ces jeunes. Et les interpellations qu'il y a, c'est pas tellement les jeunes qui jettent des cocktails Molotov ou des boules de pétanque qui sont arrêtés ou interpellés. Non, ce sont des badauds. Ce sont des jeunes qui portent des capuches, et de loin que l'on arrête et pour les relâcher d'ailleurs quelques heures après. Voilà donc la situation dans laquelle on est. C'est que ce sont quelques milliers d'adolescents halogènes qui font la loi en France. Hein, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Donc, comment voulez-vous, si vous voulez vouloir être policier à l'heure actuelle, si on n'est pas défendu par son gouvernement, puisque le ministre de l'Intérieur, le terrible M. Sarkozy, eh bien, il a laissé mettre en prison un policier qui, simplement, je crois, a peut-être donné une gifle ou tutoyé un jeune incendiaire immigré, qui d'ailleurs n'était absolument pas gravement blessé, passer, puisque le lendemain, il continuait à lancer le cocktail Molotov sur les pompiers. Bon, eh bien, voilà en quelque sorte la situation dans laquelle on est. Tout de suite, il y a eu un juge d'instruction, un tribunal, pour mettre en prison immédiatement ce policier. Voilà le monde dans lequel on vit. Mais je lisais la police, je lisais les pompiers, je pourrais lire de l'enseignement. Moi-même, j'ai commencé dans l'enseignement, mais il y a de quoi être dégoûté, parce que quand on veut enseigner, c'est pour transmettre un savoir, c'est pour diffuser un savoir, c'est pour essayer de faire élever dans la connaissance des jeunes gens et des jeunes filles. Or, il est évident qu'on ne peut plus rien transmettre à l'heure actuelle. D'abord parce que l'école est transformée en une véritable garderie, que d'autre part, de plus en plus, dans toutes les disciplines, que ce soit en histoire, en français, par ailleurs, eh bien, on nous demande d'être les auxiliaires de la religion de la Shoah. Mais en plus, ce qu'il faut bien voir, c'est que, moi, je me rappelle, dans certaines classes où j'étais, il y avait des élèves de familles polygames, donc qui ne prenaient pas du tout un mot de français. Donc comment voulez-vous avoir, dans des classes aussi hétérogènes, pouvoir leur apprendre quoi que ce soit? C'est évident, ça. Comment ne pas être dégoûté, alors que c'est peut-être un des plus beaux métiers du monde qui soit, que de transmettre un savoir, que d'enseigner. Donc je dirais que c'est tous les métiers, et singulièrement, plus encore, les métiers de la fonction publique. C'est-à-dire les gens, en général, qui votaient le plus à gauche, qui sont les plus touchés, les plus corrompus par ce qui se passe à l'heure actuelle. Puisque même dans les hôpitaux, vous avez pu voir qu'il y a des aberrations de plus en plus fortes, et pas simplement d'ailleurs dans les hôpitaux psychiatriques, mais dans un certain nombre d'hôpitaux, dans les services d'urgence, eh bien, il y a de plus en plus d'agressions, hein, puisqu'il y a beaucoup de personnels soignants qui se plaignent. Donc on revient véritablement à une barbarie probablement sans précédent dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il y a une barbarie des mœurs et des comportements d'une part, et d'autre part, un très haut niveau de technicité qu'on n'avait pas autrefois, ce qui, je dirais, d'une certaine manière, renforce encore ce côté particulièrement angoissant des débordements actuels, dont on ne sait pas bien d'ailleurs comment ils peuvent terminer, parce que, ne nous faisons pas d'illusions, le système actuel ne permettra jamais qu'une droite authentiquement nationaliste et patriote arrive au pouvoir, ou elle ne le permettra que quand ce sera trop tard, à vue humaine. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en France en 1940, hein, où finalement on a refilé le bébé au Marshal Pétain pour finalement l'emprisonner et le faire mourir en prison quelques années plus tard. Hein, donc c'est sans doute peut-être la mission historique de la droite nationale de se sacrifier peut-être et d'arriver au pouvoir lorsqu'il est trop tard. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà donc en quelque sorte ce phénomène dramatique. J'ai beaucoup parlé de la France, je vous prie de m'en excuser, mais c'est parce que cela vaut pour tous les pays européens et que c'est en quelque sorte un signe avant-coureur, une avant-garde de ce qui peut vous arriver demain et de ce qui vous est déjà arrivé à petite échelle, puisqu'il m'est arrivé de lire dans la presse helvétique un certain nombre de faits divers également assez tragiques. J'ai souvenir, il y a déjà quelques années, lorsque des militaires suisses avaient été attaqués dans un train par des halogènes, justement, déjà. Et il est clair que ce phénomène, disons, d'imprégnation, d'invasion, je crois que le mot n'est pas excessif, d'une population extra-européenne, eh bien, touche tous nos pays, et ce, de façon massive. Et je dirais que ce qui est terrible, c'est que, somme toute, on n'a aucune liberté de s'exprimer sur ces questions-là, et qu'il faudrait espérer au moins que les événements actuels permettent un petit peu de faire en sorte de soulever le couvercle de la marmite et faire en sorte qu'on puisse davantage parler librement. J'en doute fortement, parce qu'au contraire, on va toujours plus loin dans la prétendue lutte contre les discriminations, alors que quand même, ces jeunes immigrés, non seulement ils ne sont pas discriminés, mais ils sont choyés, ils sont dorlotés, ils sont protégés, ils sont excusés, ils sont sans cesse mis en avant. C'est évident, ça, depuis des décennies et des décennies. Alors, ça, je voulais dire que c'était quand même un premier point que je voulais aborder avec vous, la question de l'immigration, mais il en est beaucoup d'autres qui expliquent la nécessité de notre combat et de notre résistance, de notre insoumission à l'imposture ambiante. J'ai abordé la nécessité de dire la vérité sur le plan historique et sur tous les plans, mais il est évident également que nous faisons face à un nouvel ordre moral. Je parle du nouvel ordre mondial, mais un nouvel ordre moral. Puisque vous avez pu voir en quelques années combien on nous a imposé après la légalisation de l'avortement, on va toujours plus loin, c'est évident. On a commencé par la légalisation du divorce, de l'avortement, du concubinage, d'abord hétérosexuel, et maintenant homosexuel. Et maintenant, on en arrive à l'homoparentalité. Il y a une véritable invasion de la culture gay qui est absolument hallucinante, et qui touche tous les pays occidentaux. Le Canada, il y a quelques mois, a légalisé le mariage homosexuel. La Belgique l'a fait également. Les Pays-Bas aussi. Et en France, on a eu le débat sur le PACS, et on a eu un délit d'homophobie. Parce qu'il faut bien comprendre que l'idéologie antidiscriminatoire, elle fait un tout, que ce soit contre les, que ce soit pour défendre les immigrés, les homosexuels, toutes les minorités ethniques ou sexuelles, eh bien, elle participe du démantèlement de la loi naturelle et du démantèlement de notre société et de notre civilisation blanche, européenne et chrétienne. Ça, il faut bien avoir conscience de ça. Et ça, c'est voulu. Or, il faut bien voir le processus auquel on a eu affaire. Et de ce point de vue-là, souvent la fausse droite est pire que la vraie gauche, parce que quand c'est la fausse droite qui est au pouvoir, il y a encore moins de résistance. Et de ce point de vue-là, Chirac a été absolument, je dirais, parfait, puisque il avait... Je m'arrête quelques minutes, parce que c'est intéressant de voir le processus quand même du délit d'homophobie, du prétendu délit d'homophobie. Parce qu'ils vont toujours plus loin, si vous voulez. Donc je vous explique un peu les choses en quelques minutes, parce que c'est assez intéressant. Alors d'abord, on a commencé d'abord par le PACS. Pacte civil de solidarité, c'est le gouvernement Jospin qui a fait ça. Jospin qui a pourtant un côté très austère, vous savez, c'est le protestant athée, très coincé, mais néanmoins, c'est lui qui l'a fait. Vous savez, c'est, Le Pen avait dit que quand on rate ses yeux, on dirait un hibou ébloui. Parce qu'effectivement. Non mais, il fait peur ce type, il fait peur. Hein. Remarquez, Emmanueliste, encore pire. Moi, le soir, avec mes enfants, je ne me promènerai pas à côté de lui. Bon. Mais. Non. C'est vrai, il faut être prudent. Bon, mais disons, en tous les cas, Jospin, bon, on a eu d'abord eu le PACS. Bon. Et alors, dès qu'ils ont obtenu le PACS, fin 99, tout de suite, ils sont passés à l'étape suivante. C'est le journal Le Monde. C'est le journal Le Monde. Le poids de l'ennui, le choc des paupières. Bon. Bon. Le journal. De Gaulle l'appelait Libonde, mais il y a du vrai là-dedans. Bon, donc le journal Le Monde, tout de suite, qui est toujours à l'avant-garde de la subversion, eh bien, a dit qu'il faut créer un délit d'homophobie, un prétendu délit d'homophobie. Donc on a eu ça fin 1999, donc d'abord une pétition, et puis toute la campagne présidentielle de 2002, en partie, a porté là-dessus. Et je me rappelle que Jacques Chirac avait fait une interview au mensuel homosexuel masculin têtu, en disant que s'il était réélu, eh bien, il créerait ce délit d'homophobie. Et 6 mois après, à Reims, il a fait un discours en disant « oui, il faut le créer », et il l'a créé. Il a créé la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, et il a ajouté ce délit d'homophobie voté par la quasi-totalité des députés de droite, enfin, de droite entre guillemets. De sorte que, à l'heure actuelle, quelqu'un qui dirait, reprenant saint Paul, que l'homosexualité est une transgression ou est un péché, eh bien, peut être condamné par le tribunal correctionnel. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, un pasteur protestant en Suède a été condamné sévèrement pour simplement avoir repris ses propos pauliniens, ses propos repris du Nouveau Testament, ce qui est quand même assez hallucinant, et il est certain que c'est ce à quoi on va avoir droit dans les années qui viennent de plus en plus. Mais vous voyez bien quand même à quel point on a complètement inversé les choses. Il y a 30 ans, c'était les médecins et les femmes qui avortaient qu'on poursuivait devant les tribunaux. Maintenant, ce sont les sauveteurs, les gens qui vont dire le chapelet devant des cliniques qui sont poursuivis dans les tribunaux et condamnés, comme le docteur Dor, qui a fait plusieurs mois en prison simplement pour avoir dit le chapelet à plusieurs centaines de mètres d'une clinique où avait lieu des avortements. Il n'a même pas empêché un tel avortement. Hein. Il a simplement prié, il a fait de la prison pour ça. Et bien là, de la même façon, autrefois, c'était l'homosexualité, du moins quand elle était publique et ostentatoire, qui était condamnée et critiquée. Et bien là, c'est le contraire, si vous voulez. C'est le fait, les gens simplement qui critiqueront son caractère ostentatoire, eh bien, qui sont déjà jugés et condamnés. Donc vous voyez à quel point on marche sur la tête. Et il en va de même, évidemment, pour l'immigration. Alors donc, voilà ce qui s'est passé. Donc le PACS d'abord, le délit d'homophobie, et il est évident que le grand parti de droite, l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire, eh bien, qui, au départ, était censé avoir un électorat conservateur, eh bien, s'est rallié tout de suite à ça. En 2003, pour la première fois, il a participé officiellement à la Gay Pride. À Paris, en juin 2003, Alain Juppé, qui était son président, a envoyé un représentant officiel, ce qui avait fait dire, d'ailleurs, à Philippe de Villiers à l'époque, je ne savais pas que c'était la nouvelle politique familiale de l'UMP, reste à savoir si l'UMP a défilé dans le char de tête ou dans le char de queue de la manifestation. Bon. Mais quoi qu'il en soit, il est certain que déjà c'était quand même quelque chose d'inouï, si vous voulez. Bon. Et d'autre part, il y a une section de l'UMP ouvertement homosexuelle, gay lib, ça s'appelle. G-A-Y, très lignon libre, libre comme liberté, gay lib. Hein. Et voilà, et donc c'est une section officielle de l'UMP. Donc c'est quand même quelque chose qui est hallucinant, qui était inimaginable il y a encore 20 ans. Parce que. Pour le premier Gay Pride, dans les années 80, 90, il y avait la gauche qui défilait. Il y avait Jacques Lang, il y avait Bertrand Delanoë, Notre-Dame de Paris. qui s'est remis de sa défaite olympique, hein, qui s'est remis de sa défaite olympique avec beaucoup de difficultés. Il avait beaucoup donné de lui-même pour obtenir cette victoire olympique. Hein. Il a beaucoup dépensé, beaucoup dilapidé d'ailleurs l'argent des contribuables parisiens. Mais en tous les cas, il est certain que chaque année, on les voyait se tortiller devant ces manifestations très colorées. Mais voilà, même maintenant, la droite de gouvernement participe à ce genre de manifestations que un véritable gouvernement devrait interdire. C'est évident, on devrait interdire, ne serait-ce que par respect du bon goût. Et puis, ne serait-ce aussi que parce qu'il y a quand même des enfants, et même pas seulement des enfants, qui peuvent passer dans la rue, et qu'un État normal ne devrait pas tolérer ce genre de débordement absolument hallucinant. Si je comprends que quand certains pays arabes et musulmans voient ça, ils prennent peur. Ça, c'est sûr. Il y a de quoi, effectivement, être inquiet. Alors, voilà donc ce qui s'est passé en quelques années. Et là, maintenant, ils veulent aller plus loin. Donc, ils ont eu le PAC, ils ont eu le délit d'homophobie. Troisième combat, l'homoparentalité. De quoi s'agit-il? C'est un néologisme. Et les questions, de permettre à ces couples gays ou lesbiens, de pouvoir adopter des enfants, d'avoir tous les droits d'un couple marié ou hétérosexuel. Donc l'insémination artificielle pour les lesbiennes et le droit à l'adoption. Alors c'est déjà le cas dans un certain nombre de pays. Et en France, la gauche s'est déjà déclarée, si elle gagne les élections en 2007, en faveur de ce projet. Dominique Strauss-Kahn a déjà dit qu'il y était tout à fait favorable, ainsi que François Hollande et l'ensemble des dirigeants du Parti Socialiste. D'ailleurs, entre nous soit dit, vous avez pu constater, hein, Dominique Strauss-Kahn, François Hollande, Jacques Lang, c'est assez intéressant quand même, Bernard Kouchner, etc. C'est quand même intéressant. Là, pour le coup, c'est assez mono-ethnique, si j'ose dire. Mais il est vrai qu'il y a des ethnies plus égales que d'autres. Bon, et que il est un petit peuple courageux du Moyen-Orient qui est antiraciste pour les autres, mais très raciste pour lui-même. Bon, mais ça, c'est une chose assez importante. Alors quoi qu'il en soit, donc voilà, en quelque manière, ce que nous vivons. Donc il faut résister à ça. Il faut résister à ça. Comment, vous allez me dire? Parce que on est assez impuissant face à ce déferlement épouvantable de l'immigration massive, de l'impureté, de la luxure. Sous toutes ses formes, de la débauche généralisée, de la pornographie institutionnalisée et de la pornographie de masse. Parce qu'il est évident qu'il y a une prolétarisation du vice à l'heure actuelle, puisque je crois que c'est depuis Giscard en France qui avait autorisé la diffusion des films pornographiques, des cassettes X, etc. Ça date de 30 ans. Donc il est clair que maintenant, je lisais dans Le Monde récemment que je crois que 80% des jeunes avant 16 ans avaient déjà vu plusieurs films pornographiques, y compris les jeunes filles d'ailleurs. Avait vu. Alors c'est évident, comment croire encore à l'amour et comment croire encore au don de soi quand on a déjà tout souillé avant même l'âge officiel de la majorité. Et ça, c'est voulu également, c'est voulu. Hein. Il y a une volonté de corrompre la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir et l'espérance d'un pays, d'une civilisation. Et donc, si on la corrompt, elle sera incapable de résister, puisque, au fond, ce qui est voulu, c'est finalement la domination d'un certain nombre de grands financiers, banquiers internationaux, qui veulent faire un maximum de profit. Et pour faire un maximum de profit, il ne faut pas qu'il y ait de frontières, il ne faut pas qu'il y ait de peuples et de nations fortes, parce que ça gêne leurs petits intérêts. C'est tout. Hein. Voilà, en fait, ce qui est voulu. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut détruire l'Europe blanche et chrétienne, qui, pendant des siècles, avait dirigé le monde entier. Voilà. Et il est évident que, à partir du moment où un peuple est plus conquérant, c'est lui qui se fait occuper. Il est évident que lorsque les nations d'Europe sont allées conquérir, convertir, évangéliser, coloniser, civiliser un certain nombre de peuples en Extrême-Orient, en Afrique, dans les deux Amériques, il est évident que le monde se portait plutôt mieux que maintenant, il faut bien le dire. Mais comme finalement on a renoncé à cela et qu'on a même criminalisé cette période-là, qui avait certes ses erreurs et ses fautes, parce que toute aventure humaine a ses limites et ses imperfections, mais qui étaient quand même globalement positives, eh bien, il est clair que maintenant, eh bien, c'est le contraire. Ces peuples-là, qu'on a drogués au racisme anti-blanc, anti-occidental et anti-chrétien, eh bien, en quelque sorte, se vengent en nous occupant et en nous haïssant. C'est évident, d'ailleurs, c'est pour ça que vous savez qu'il y a des bandes de noirs et de blacks et de beurre qui ont pour objectif tout de suite d'aller souiller, c'est leur expression, hein, la première blanche venue, parce que justement, c'est une façon de montrer leur domination et la vengeance de leur peuple, de leur civilisation, de leur race par rapport au monde blanc. C'est très fréquent hein, dans les banlieues et ailleurs, c'est une réalité assez épouvantable. Mais qui n'est pas simplement en Europe, puisque aux États-Unis d'Amérique, il faut savoir que, on l'a peu dit, mais on l'a dit dans notre journal quand même, que lors des, comment dirais-je, du cyclone Katrina, eh bien, en Louisiane, eh bien, il est évident qu'il y a eu des émeutes anti-blanches, une violence inouïe et occultée par les télévisions américaines, mais qui ont été absolument pénibles, et que certains ont quand même reconnu. Il y a une véritable chasse aux blancs qui a été véritablement organisée, par exemple, de bandes noires, il faut le savoir. Donc, ce n'est pas simplement un phénomène européen, c'est un phénomène vraiment qui touche l'ensemble du monde blanc occidental, qui touche même l'Australie et la Nouvelle-Zélande, de façon moindre mais réelle. Donc, c'est vraiment le monde blanc qui est absolument en accusation. Mais il a aussi sa part de responsabilité, puisque ce sont les élites ou prétendues élites de ce monde-là qui n'ont cessé de s'auto-flageller et de faire un mea culpa, non pas sur leur propre poitrine d'ailleurs, mais sur celle de leurs prédécesseurs, de façon absolument abominable, suicidaire et criminelle. Alors face à cela, que faire? Eh bien d'abord, la première chose, c'est de ne pas céder. Ils ne nous auront pas vivants. Tant que c'est vrai qu'on peut finalement occuper notre pays, on peut somme toute, nous faire payer des impôts confiscatoires, on peut essayer de faire des lois pour nous bâillonner, on ne peut quand même pas nous enlever notre volonté, notre capacité à dire non et à refuser, au moins intérieurement, et si possible aussi par la parole, eh bien, de cautionner cette imposture ambiante. C'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas être dupe, c'est donc de s'informer. Hein, il y a de bons journaux, il y a de bons livres qu'il faut lire, relire, qu'il faut essayer de diffuser autour de soi, hein, dans sa famille, dans ses relations sociales, professionnelles, pour essayer de porter la bonne parole. Hein, il faut donc essayer de ne pas ignorer les réalités actuelles et ne pas avoir froid aux yeux. Il est certain qu'il y a de quoi avoir peur devant ce qui nous arrive, parce qu'il y a une forme d'impuissance. Moi, il m'est arrivé de faire des conférences devant des jeunes, et je me disais, mais que leur dire? Comment leur dire sans qu'ils désertent? Comment leur dire sans les désespérer que finalement, tous les combats, on les a perdus depuis des décennies, et que rien ne prouve que ce combat-là, peut-être le dernier combat, qui sait, à vue humaine, eh bien, on le gagnera, et que, somme toute, on a parfois le sentiment d'une stérilité de nos efforts, d'une impuissance de nos activités, somme toute modestes d'ailleurs, et un peu souterraines, parce que c'est un peu les catacombes du nationalisme à l'heure actuelle. Nous vivons les catacombes du nationalisme et les catacombes du christianisme, il faut bien le dire. Bon, mais néanmoins, même dans les catacombes, eh bien, on peut quand même faire un certain nombre de choses. Et donc d'abord, il ne faut pas baisser la tête, il ne faut pas avoir peur. C'est normal d'avoir peur. C'est un sentiment. La peur est avec la vanité le sentiment le plus commun à l'humanité. Mais il faut essayer de la vaincre, il faut essayer de la surmonter. Parce qu'il y a beaucoup de nos concitoyens, de nos compatriotes qui ont tellement peur qu'ils sont prêts à tout accepter. Ben, c'est une attitude de lâche, ça, c'est pas une attitude d'homme responsable. Le Christ, dans l'Évangile, dit à 63 fois « N'ayez pas peur, ne craignez pas ». C'est donc bien dire qu'il faut essayer de vaincre sa peur. Et somme toute, après tout, la peur humaine, l'angoisse humaine, elle n'a jamais été aussi élevée qu'à Gethsémani, hein, qu'au jardin des olives. Et finalement, la peur, elle n'est jamais bénie, elle n'est jamais sanctifiée, pour peu qu'on sache la surmonter, qu'on sache la vaincre. Et puis, somme toute, j'ai dit, il ne faut pas avoir peur, mais il faut aussi savoir patienter. Rien de grand, rien de beau ne se fait sans effort et sans la durée. C'est souvent quand on croit que tout est perdu, que tout recommence, que tout rejaillit. Et il n'est aucune grande aventure humaine sans effort et puis sans certains échecs. Après tout, si la Providence a voulu que nous vivions à ce stade de l'histoire de notre pays, de notre continent, de notre civilisation, cela a forcément un sens. c'est évident, et que, somme toute, nous ne savons pas dans ses desseins éternels ce qu'il a décidé, mais cela a forcément un sens. Donc, il faut patienter. C'est le maréchal Pétain qui, en 1940, alors que la France a connu la plus grande défaite militaire de son histoire, avec 120 000 morts et 2 millions de prisonniers en Allemagne, qui dit que, somme toute, à l'heure actuelle, la forme la plus accomplie, la plus aboutie du courage, c'est la patience. Il faut savoir patienter. Et c'est difficile parce qu'à l'heure actuelle, on est dans le règne de la vitesse, avec Internet, avec les SMS, avec la télévision, avec les satellites. Et bien, il faut savoir prendre son temps, savoir patienter, savoir se recueillir en soi-même et savoir réfléchir, méditer. Alors qu'on fait tout avec le bruit dans les grands magasins, dans les métros, partout, pour faire en sorte que les gens ne réfléchissent pas. Il ne faut surtout pas qu'ils réfléchissent, ni sur eux-mêmes, ni à la situation actuelle, ni sur le monde extérieur, ni sur leur salut, évidemment. Et d'autre part, eh bien, il faut essayer de cultiver entre soi l'amitié. C'est vrai que parfois, ceux d'entre vous qui lisent Rivarol, ils voient parfois dans le courrier des lecteurs, parfois il y a des querelles parfois dures entre nous. C'est pas en soi illégitime, c'est pas scandaleux. Dans une famille même la plus unie, c'est normal qu'il y ait parfois des déchirements ou qu'on se dise les choses en face. Mais même quand on a des désaccords, politiques, religieux ou autres, après tout ça n'est pas illégitime, eh bien il ne faut jamais oublier qu'on a en face de soi un camarade, un ami, un frère, et que donc il faut faire preuve de bienveillance et d'indulgence. Et puis somme toute, l'amitié avec l'amour, le sentiment au monde qui est un petit peu une douceur de notre exil ici-bas, un petit peu le charme de notre pèlerinage terrestre. Et puis d'autre part, il faut aussi, je terminerai par là, garder quand même l'espérance, qui est une vertu théologale dont Peggy dit qu'elle est cette petite fille qui marche entre ces deux sœurs aînées, la foi et la charité, et dont on a bien vu souvent dans l'histoire, et singulièrement dans l'histoire de France, avec Jeanne d'Arc, pour penser quand elle est née, il y avait trois papes, et que finalement, la France semblait aux mains du royaume d'Angleterre, tout semblait perdu humainement, et finalement, eh bien, tout a refleuri, tout a rejailli, alors qu'on n'y croyait plus, d'une simple bergère, d'une simple pucelle. Et donc, c'est donc bien dire que finalement, on ne sait pas de quoi est fait. Hein, je crois qu'il y a un chant, je me rappelle, qu'on chantait lorsque j'ai fait un peu de scoutisme dans ma jeunesse, où on disait, c'est un petit oiseau qui parle à un jeune homme qui est triste et ne croit plus en rien, et qui lui dit, reprends courage, l'espérance est un trésor, même le plus noir nuage a toujours sa toison d'or, a toujours sa frange d'or. Et je crois que c'est très vrai, finalement, ça. C'est d'ailleurs le rythme de la vie qui est ainsi, c'est le cycle des saisons, qui est qu'après l'hiver, il y a le bourgeonnement du printemps, et qui sait si, un jour, on verra peut-être un printemps nationaliste. Il y a une autre chanson, d'ailleurs, qui dit, je maintiendrai. Bien, il faut maintenir et il faut transmettre. Il faut transmettre la bonne parole. Mais pour transmettre, comment peut-on transmettre ce que l'on n'a pas reçu? Comment peut-on donner ce que l'on n'a pas? Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir des convictions, il faut avoir une flamme intérieure qu'il faut entretenir, qu'il faut essayer de développer, parce que pour faire en sorte qu'un jour, avec la grâce de Dieu, la petite flamme qui est en nous devienne un immense feu de joie.
Vous avez été applaudi comme peu ont été applaudis, ça veut tout dire, monsieur Jérôme Bourbon. Merci du fond du cœur. Les informations que vous nous avez données au début et tout le long de la conférence et cette fin extraordinaire où vous êtes retombé dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Merci beaucoup. Il est évident que nous allons encore vous y profiter de M. Jérôme Bourbon en lui posant des questions, en faisant un dialogue plutôt qu'un débat. Mais auparavant, j'aimerais vous donner quelques indications d'ordre pratique. Première indication, première information, il faut que j'appelle Lucie Pelouchou et puis que je lui demande d'apporter quelque chose ici. Là, voilà. Elle a... Alors, ça, c'est pour vous, monsieur Jérôme. Ah. Je pense que c'est une corvée d'entraînement.
Dans l'affaire, un mot d'ailleurs sur Jean Raspail, parce que c'est vrai qu'il a été un visionnaire, et vous savez qu'il a eu, je dis un mot parce que c'est vrai qu'il a eu un procès récemment pour un article qu'il a écrit, remarquable d'ailleurs, tant dans son fond que dans sa forme, qu'il a écrit au Figaro récemment, assez désespéré d'ailleurs, je dois dire, mais très lucide, et où il décrivait sans embâge la réalité de la France et de l'Europe, absolument occupée et ravagée par l'immigration massive, et il a été poursuivi par la LICRA. Mais la LICRA s'est trompée dans un des articles, ce qui fait que finalement, le tribunal correctionnel de Paris, la 17e chambre, la chambre de la presse, finalement, a relaxé Raspail et Rivarol, qui avaient repris ses propos, ils avaient commenté, et donc on a été relaxé définitivement, mais il y a d'autres procès en cours, parce qu'on a un procès là, relativement aux propos que Jean-Marie Le Pen avait tenus en début d'année, relativement à la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, nous sommes... Enfin, le procès n'a pas encore eu lieu, mais nous sommes au stade de la convocation chez le juge d'instruction. C'est pourquoi je suis venu en train, non pas en voiture, parce que hier après-midi, j'étais chez Madame le juge d'instruction relativement à une interview, ce qui est hallucinant quand même à l'heure actuelle, qu'on puisse plus, 60 ans après la guerre, eh bien, tenir des propos nuancés en considérant que les méchants n'étaient pas forcément toujours du même côté, les bons de l'autre, et qu'il faudrait arrêter d'avoir une vision strictement manichéenne de ces événements. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que plus on avance dans le temps, moins on a de liberté sur tous les sujets relativement à celui-là. Ce qui est quand même hallucinant. Et vous avez raison pour Philippe Gauthier, pour Jean Raspail, qui ont été des visionnaires, ça c'est sûr. Bah, vous savez, Jean-Marie Le Pen a souvent dit dans sa déclaration de foi, je préfère ma fille à ma nièce à ma cousine. Donc il applique. il applique. D'ailleurs, il a toujours appliqué parce que j'étais encore, comment dirais-je, une image dans le clin d'œil de mon père, lorsque Le Pen, après la guerre d'Algérie, avait présenté sa femme, enfin sa première femme, donc qui s'appelait Pierrette Le Pen, esthéticienne, il y avait sur les murs de Paris, il l'avait présentée, et puis après il y a eu l'affaire Jeannie Le Pen, qui c'est vrai a joué un rôle important dans la scission maigrettiste, hein, parce que c'est là-dessus que ça s'est fait, parce que Maigret s'est dit, d'abord avec la forme qu'il a, dans 10 ans, dans 15 ans, il sera encore là, moi j'ai ma carrière à faire, et d'autre part, il s'est dit, ça se trouve, finalement il mettra sa fille, sa femme, n'importe qui, mais finalement il ne donnera jamais le parti, donc c'est sûr que ça avait joué. Et puis bon, maintenant effectivement après Pierrette et après Jeannie, bon bah évidemment c'est Marine, puisque Marie-Caroline elle était passée du côté maigrettiste, hein, même si depuis elle n'est plus maigrettiste. Bon, mais enfin voilà, bon bah c'est sûr que je partage votre sentiment. Néanmoins, qu'est-ce que vous voulez faire? À l'heure actuelle, il n'y a pas d'autres formations politiques en France. Le Pen garde les qualités quand même exceptionnelles qu'il avait. J'ai encore vu récemment, il a encore du talent, du punch, de l'énergie, et je l'ai encore entendu dans des émissions radiophoniques où il était excellent. Il est certain qu'il a, comment dirais-je, une conception un peu patriarcale, c'est certain, du Front National. C'est vrai que c'est lui qui l'a fondé. C'est vrai qu'il doit considérer qu'il fait une majorité à lui tout seul au sein du mouvement. Je pense que le fait d'avoir été au deuxième tour en 2002, presque tout seul, puisque le parti était un peu exsangue à l'époque, a dû renforcer ce sentiment chez lui. Et donc, effectivement, ce phénomène que vous soulignez, effectivement, n'est malheureusement que très vrai. Et que voulez-vous qu'on y fasse? Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à y faire. C'est ainsi. Peut-être que les choses peuvent évoluer. Je ne sais pas d'ailleurs dans quel sens. Mais à l'heure actuelle, il ne fait qu'appliquer sa devise, si j'ose dire. Voilà. Donc. Voilà. Oui. Non, mais c'est sûr que c'était effrayant, mais vous savez que le sport est une arme de destruction massive, une arme de destruction massive de nos identités raciales et nationales. C'est évident, ça. Et je veux dire, en France, moi j'ai honte de cette équipe dite par antiphrase de France, quoi. Parce que c'est monstrueux, quoi. Et d'ailleurs, c'est malheureux, mais on ne peut que souhaiter sa défaite, quoi. Moi, je veux dire. D'ailleurs, je dois dire que là, récemment, j'ai été malheureux comme tout lorsque j'ai vu que finalement, ça y est, elle était quand même qualifiée pour la Coupe du Monde en 2006. Quoi. J'avais espéré, ça jouait à peu de choses. Puis finalement, j'étais désespéré, donc j'ai dû repasser en boucle la victoire de Le Pen au premier tour en 2002 pour me redonner le moral.
Merci.
Bien. Ben donc, pour l'essentiel, je partage votre pessimisme, hein, mais il me semble que la première solution, la révolution, elle commence par soi-même. Et à mon avis, moi, je crois qu'il faut essayer déjà de se prémunir soi-même autant qu'on le peut. On est tous pollués, plus ou moins, c'est évident. Mais il faut essayer de se prémunir autant qu'on le peut de la décadence ambiante, ce qui n'est pas facile, mais c'est déjà un effort permanent. Moi, je crois que c'est déjà la meilleure façon de lutter contre ce système de décadence. Ça, c'est le premier point. Soi-même, et puis autant qu'on le peut, son cercle familial, les gens sur lesquels on a quelque influence, et quelque responsabilité ou quelque autorité. Ça, c'est le premier point. Relativement à la théorie du complot, c'est vrai qu'il y a plusieurs thèmes, ou des complots, ou des conjurations, parce qu'ils peuvent être pluriels, ou qui peuvent s'ajouter. Il y a plusieurs thèses, effectivement, en présence. Disons que, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que quand même... On ne fait jamais marche arrière, on va toujours plus loin dans le mal et dans l'imposture, et que les gouvernements que nous avons, loin d'essayer d'enrayer ou de freiner la décadence et la destruction, parce que ce sont des gouvernements qui ne sont pas là pour, pour défendre nos pays, défendre nos peuples, ils sont là pour les détruire et les avilir et aggraver. C'est très net ça quand même. Hein. Bon, et donc moi je pense quand même qu'il y a quand même, ils sont soumis à un certain nombre de lobbies qui, je pense, ont une stratégie de chaos, comme en Irak. Enfin, je veux dire, il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Moi je pense quand même que quand on voit tous ces attentats dont l'origine est très suspecte, parce que même, je veux dire, qu'il y ait une résistance irakienne, ça se comprend. On ne comprend pas pourquoi elle s'en prend à des Irakiens civils dans la foule qui sont pas en soi des complices ou des collaborateurs de l'occupant. Donc quand même, il y a quelque chose de très suspect là-dedans. Et donc je pense quand même qu'il y a une stratégie du chaos au Moyen-Orient, c'est très net, mais je pense qu'on peut penser, en tous les cas, il ne paraît pas illégitime de penser qu'elle vaut également pour l'Occident, qu'il y a une stratégie du chaos. Et de ce point de vue-là, les émeutes actuelles, tout ce qui se passe, va dans ce sens-là. Je ne suis pas sûr que l'objectif ne soit pas une décadence encore plus forte, une destruction encore plus forte. En tout cas, la question peut se poser. Mais ça n'est pas incompatible avec ce que vous dites, avec le fait, effectivement, que de toute façon, le mal appelle le mal, la transgression appelle la transgression, la subversion appelle la subversion, et que c'est évident que, soyons honnêtes, beaucoup de gens, à la base, s'ils étaient au sommet, ils feraient la même chose que ce qu'ils se font au sommet, c'est-à-dire qu'essayer de voler au maximum, de tricher, de mentir, d'avoir un maximum de pouvoir, un maximum d'argent. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'il n'y a plus de vertu. Et s'il n'y a plus de vertu et de morale, à mon avis, c'est parce que il n'y a plus de foi chrétienne. Je crois que c'est ça. Et s'il n'y a plus de foi chrétienne, bon, bah, là, on entrerait dans un grand débat, mais où les raisons sont multiples. Il y a très certainement le rôle de la société de consommation, du matérialisme, de l'invasion de la technoscience. Et puis il y a quand même, incontestablement, je pense quand même ce que Gérald de Gaulle, à juste titre, avait appelé l'événement le plus important du XXe siècle, qui est quand même Vatican II, je pense. Bon. Et qui, à mon avis, dont les conséquences, dont les tumeurs, n'ont de cesse, à mon avis, de porter leurs fruits, puisqu'au fond, finalement, il faut quand même dire les choses. À l'heure actuelle, quand même, les épiscopats mondiaux, ils ne font qu'accompagner, promouvoir l'idéologie dominante, hein, c'est évident. Ça, si on voit les choses en face et qu'on ne veut pas s'aveugler, c'est quand même la réalité. Il faut bien l'admettre. C'est un fait. Ça ne veut pas dire que ça concerne, Dieu merci, tous les chrétiens ou tous les baptisés, loin de là. Mais enfin, au niveau quand même, disons, des épiscopats et du clergé, sauf exception individuelle, ça me paraît quand même difficilement niable, quand même. Bon. Et là encore, il y a eu une déclaration récente de l'épiscopat français qui donnait quasiment raison aux émeutiers, ou en tous les cas, qu'ils excusaient, qu'ils les comprenaient, comme l'épiscopat français avait approuvé mai 68, et comme l'épiscopat européen avait appelé à voter pour la Constitution européenne. Alors même qu'elle niait explicitement l'héritage chrétien de l'Europe, ce qui n'impliquait pas d'ailleurs une reconnaissance confessionnelle. C'était simplement dire que dans l'histoire, eh bien, l'Europe avait été fondée sur le christianisme, ce qui n'est pas niable d'un point de vue historique, ce qui n'implique même pas forcément d'être chrétien, hein, ou d'être pro-chrétien. Bon, mais c'est un peu comme si on niait que la philosophie des Lumières avait joué un rôle dans la Révolution française, quoi. Bon, donc c'est même une négation de l'histoire. Là, pour le coup, c'est vraiment du négationnisme. Bon, eh bien, l'épiscopat français européen a approuvé ça. Donc, si vous voulez, ça aussi, c'est tragique. C'est-à-dire que toutes les structures sur lesquelles, en principe, on devrait pouvoir s'appuyer, on ne peut pas s'y appuyer. La famille a été volontairement démantelée, la police désarmée, la justice syndiquée, politisée, et qui également donne souvent raison aux malfaiteurs, et également les autorités ou prétendues autorités religieuses. Et ça c'est certain. Et pas simplement, d'ailleurs, pour ce qui concerne l'Église issue de Vatican II, mais également les autres religions chrétiennes et non chrétiennes, hein, c'est évident, ça, qui font des communiqués, des déclarations antidiscriminatoires, antiracistes unilatérales, et qui culpabilisent et tétanisent également leurs fidèles, hein, c'est évident, et les peuples dont ils ont la charge. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, le complot, moi, il me semble quand même qu'il se déroule un peu sous nos yeux, et c'est un fait. Alors ça ne veut pas dire que chacun n'a pas des responsabilités individuelles. il a la responsabilité de résister, de ne pas résister, de participer au mensonge ambiant, d'essayer de se prémunir soi-même de la décadence ou pas. Donc, bien sûr, mais enfin, moi, il me semble que c'est évident quand même, parce que, si vous voulez, s'il n'y avait pas ça, devant, il y aura une forme de bon sens quand même. Bon, hein, je crois que c'est Descartes qui disait le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Parfois, on peut en douter. Mais enfin, il reste que quand même, devant des faits aussi massifs, un gouvernement digne de ce nom, même s'il n'est pas vertueux, même s'il n'est pas héroïque, il prendrait des mesures pour quand même limiter, freiner l'immigration, déchoir de la nationalité française, enfin, ou suisse, si c'est en Suisse, les étrangers, les Français naturalisés ou les Suisses naturalisés qui se comportent mal. Voilà, il essaierait de prendre un certain nombre de mesures. Or, ça n'est pas le cas. Au contraire, on continue. Même Sarkozy, qu'on nous présente comme Monsieur Muscle, hein, alors qu'il n'en a pas le physique, pourtant. Hein, bon, eh bien, l'époux malheureux de Cecilia, eh bien, en réalité, Sarkozy, eh bien, il a dit qu'il était encore pour l'immigration, des quotas d'immigrés supplémentaires. Il l'a dit encore à l'Express cette semaine. Il a dit, moi, je ne suis pas pour Le Pen, je suis pas comme Le Pen pour l'immigration zéro, moi, je suis pour une immigration choisie. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer et augmenter l'invasion et la submersion migratoire. Hein, si les mots ont un sens, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc, on nous a présenté également, on a mis en valeur un certain nombre de pseudo-résistants qui sont en fait des imposteurs. Ça a été Pasqua, c'est Sarkozy maintenant, il y en aura toujours d'autres et ça continuera comme ça. On met en avant des hommes prétendument de droite, prétendument réactionnaires et conservateurs et qui sont encore plus dangereux que les autres parce que sous une apparence de masque de droite, ils font la politique de l'ennemi et ils sont du camp de l'ennemi. Certainement, bah, certainement. Non, mais disons, un député, si vous voulez, un homme politique, son ambition c'est d'être élu et une fois élu, d'être réélu. Or, il est évident que pour être élu ou réélu, il y a en principe pour faire plus de 50% des voix. Et pour faire plus de 50% des voix, on peut prendre des positions radicales qui nous aliènent les médias, qui nous aliènent un certain nombre de lobbies. C'est évident. Il est évident que la démocratie, enfin beaucoup d'études ont été faites, c'est le règne de l'argent, du mercantilisme. Et il est évident que des candidats, des grands financiers, des grands industriels vont aller les voir et vont lui dire si vous nous dites ça, on vous donnera tel argent pour votre campagne électorale, vous aurez tels avantages matériels, financiers ou autres, on vous aidera à être élu. Parce qu'il est évident que c'est l'homme politique qui met le plus d'argent dans la campagne électorale, ou le parti qui met le plus d'argent, qui gagne en général. C'est très net aux États-Unis, mais c'est vrai également dans nos pays. Donc c'est pas le peuple qui fait la décision, enfin c'est grotesque. Hein. Ce sont les grands financiers, c'est l'argent, c'est évident. L'homme politique honnête qui a peu d'argent, qui veut défendre ses idées, il n'a aucune chance d'arriver au pouvoir s'il n'a pas d'argent, s'il n'est pas soutenu près des forces, elles, puissantes. Enfin, c'est évident, ça. Donc, c'est pourquoi le système s'entretient. Si vous voulez, comme disait l'historien Jean de Viguerie, que vous avez déjà invité et que j'avais interviewé il y a quelques années, il y a un an et demi pour Rivarol, eh bien, il me disait à juste titre que nous vivons par excellence l'époque de l'irréformabilité. C'est-à-dire qu'on nous parle toujours de dialogue, d'évolution des esprits, mais en réalité, rien ne change. Sinon, en pire, les immigrés sont de plus en plus nombreux, on continue à les faire venir, la décadence morale est de plus en plus forte, on continue à prendre des lois de destruction de la famille et de destruction de la morale, et l'économie va de plus en plus mal, on continue à favoriser le chômage par une fiscalité étouffante et par d'autres mesures anti-économiques, etc., etc. Donc, je veux dire, il y a vraiment une volonté, il n'y a pas de doute, ça, de destruction. Et d'autre part, il faut bien comprendre qu'on a des dirigeants qui se moquent complètement du peuple. Hein. Ils n'ont pas de compassion. Hein. Il est dit dans l'Évangile « Miséreor superturbable », j'ai pitié de la foule. Ben, ils n'ont pas pitié de la souffrance du peuple qui souffre dans les banlieues, qui a la peur au ventre, qui a peur pas simplement pour sa voiture ou son travail, mais qui a peur pour sa vie, sa sécurité physique, et qui voit que finalement les étrangers sont mieux traités et plus mis en avant finalement dans leur propre pays qu'eux-mêmes. C'est un sentiment de dépossession qui est terrible, car en quelques années, nous n'avons plus de frontières, nous n'avons plus de monnaie, vous avez encore une monnaie nationale, on l'a plus, nous n'avons plus de frontières, nous sommes complètement envahis, occupés, nous n'avons même plus la liberté de nous exprimer. C'est quand même quelque chose qui est absolument effrayant. On est rayé de la carte. Il y a une forme de négation de nous-mêmes. Là, il y a d'une certaine manière, un véritable génocide, d'abord par persuasion, et aussi par l'intoxication, et par l'avortement d'une part, par l'immigration massive d'autre part. Enfin, moi, ça me paraît évident, il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Et donc, ils n'ont pas pitié, ils n'ont pas de compassion, ils ne voient pas la souffrance. La verraient-ils, ils n'en souffriraient pas, parce que ces gens n'ont pas de cœur. Je crois que c'est Bernanos qui disait, le monde moderne a la tripe sensible, mais le cœur dur. Et je crois que c'est tout à fait ça, en fait. Un Chirac derrière son côté finalement convivial, vous savez, qui mange énormément, buveur de Corona, qui aime taper le cul des vaches, etc., au salon de l'agriculture. Bon, ben, en réalité, d'abord, c'est un tueur en politique, bon, mais en plus, c'est un homme, en fait, qui n'a aucun cœur. Il se moque complètement de ce qui peut se passer en France, de la destruction de la France. Au fond, il pourrait parfaitement faire la remarque que vendredi avait fait Robinson Crusoe, quand Robinson Crusoe avait demandé à vendredi de remuer le tronc d'arbre pour qu'il en tombe des pommes, vendredi avait répondu « Je n'en ai rien à secouer, crétin, c'est un bananier ». Bon, ben, de la même façon, il pourrait dire « J'en ai rien à secouer, j'en ai rien à secouer ». C'est ça, Chirac, je veux dire. D'ailleurs, il a une formule assez grossière qu'il emploie souvent, qui est sortie dans la presse. Quand on lui parle, il dit finalement, voilà, c'est ça, il dit finalement « Ça m'en touche une sans faire remuer l'autre ». Voilà. Bon, ben, c'est ça, je veux dire. Chirac, c'est ça, je veux dire. C'est à la fois la vulgarité à la tête de la France, et en plus, finalement, non seulement la vulgarité, mais en plus, finalement, l'incompétence, la médiocrité et la trahison de ses électeurs. Voilà ce que c'est. Donc, c'est quand même assez tragique. Ah, je l'ai dit là-bas également. Oui. Je l'ai dit là-bas. Oui. Non, il y en a moins qu'ici. Hein. C'est pourquoi je suis heureusement surpris et flatté et honoré. Ouais. Bah, encore faudra-t-il qu'il soit invité dans les médias. Or, je peux vous assurer, pour avoir été à une manifestation qu'il a organisée le lundi 14 novembre, place du Palais Royal à Paris, eh bien qu'aucune télévision n'en a parlé, quasiment aucune radio. Dans les journaux, il n'y avait qu'un petit écho dans Le Monde et rien d'autre dans les autres journaux nationaux. Donc il y a une véritable omerta, une véritable censure. Et le directeur de LCI, une des télévisions françaises, a dit « Mais je m'en voudrais de faire en sorte que d'installer l'extrême droite française à la première ou à la seconde place de la vie politique française ». Il ne faut pas oublier qu'ils vivent dans la terreur de ce qui s'est passé en 2002, hein, puisqu'il y a eu un déluge de haine terrible. Hein. Lorsque Le Pen a fait 16,08 au premier tour, qu'il était devant Jospin, j'avais regardé les manifestations monstres contre lui, 16,8 sur l'échelle de Hitler, etc. Le Führer est de retour, etc. Enfin, je veux dire, ça avait été délirant, quoi. Bon, et donc, ils avaient montré leur véritable visage, quoi. C'était sans limite, bon. Et donc, ils ont la peur de ça. Ils ont la peur de ça. Et donc, ils utiliseront tous les moyens. Donc là, ils se disent, ils voient bien que des voitures qui brûlent, on sait que ce sont des afro-antillais ou des afro-maghrébins, et donc ils se disent, attention, ça peut faire commenter Le Pen, donc il ne faut pas qu'on le voit. Il ne faut pas le montrer, il ne faut pas l'inviter, parce qu'en plus, il parle bien, il présente bien, et donc il suffirait qu'il dise simplement, je l'avais dit. D'ailleurs, le Front National d'ailleurs, a fait une affiche qui est très bien, immigration, violence, explosion des banlieues, Le Pen l'avait dit. Voilà, tout est dit. Et depuis 30 ans. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, ils ont peur de ça. Mais quand même, même si on essaye d'intoxiquer, et malheureusement ça marche beaucoup, le peuple, il y a quand même encore quelques réactions vitales. Et j'ai vu autour de moi des gens qui étaient assez hostiles à Jean-Marie Le Pen et au Front National, qui maintenant commencent à évoluer. Certains se sont dit, maintenant, cette fois-ci, on ne sait plus avoir. Maintenant, on va voter. Espérons qu'ils continueront dans ces bonnes et sages résolutions. Mais c'est difficile d'arriver à 50%. Hein, parce que pour être élu, il faut arriver à 50%. Or, avec tous les Français de papier qui sont faits, les millions de Français de papier, vous avez les gauchistes invétérés. Hein, je veux dire, on a beau leur montrer la réalité en face, ils préféreront continuer à voter pour leur parti respectif, parce qu'il y a aussi une idéologie en France qui est assez effrayante quand même. Hein, bon. Donc, quand vous pensez que la France est le seul pays au monde où il y a eu trois candidats trotskistes, sans compter Jospin le déguisé, trois candidats trotskistes qui ont fait plus de 10% des voix, et que Arlette Laguiller et Olivier Besancenot, le postier et la timbrée, ont fait à L2 10% des suffrages exprimés. Pensez que la France est le seul pays au monde où il y a encore un parti communiste qui porte son nom malgré la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'URSS. Hein. Vous savez, même après, c'était après de Georges Marchais, c'était Robert Rue, vous savez, le nain de jardin là, qu'on avait eu. Bon, donc en fait, ça marche encore, si vous voulez. Donc la France, c'est un pays, certes, fascinant à bien des égards. Moi, j'avoue que quand je prends le TGV, j'aime regarder par la fenêtre ou l'avion par le hublot la France, mais la Suisse n'a rien à envier à la France. C'est magnifique, hein, je voyais là en venant le train ce matin, c'est extraordinaire, les montagnes, le lac, etc. Bon, c'est aussi pour ça qu'on se bat. Parce que le peuple qu'on a à l'heure actuelle, il est souvent décevant, il faut bien le dire. Bon, mais il faut avoir une conception maurassienne des choses. C'est-à-dire que finalement, on n'est qu'une chaîne, on n'est que le maillon d'une chaîne. Finalement, on a des prédécesseurs et on espère avoir des successeurs. Et donc, c'est aussi pour tout cela qu'on se bat. Et c'est aussi pour un paysage, un art de vivre Je crois que De Gaulle disait qu'il se faisait une certaine idée de la France. Je crois qu'il ne faut pas se faire une idée de la France. Il faut simplement l'aimer charnellement. L'aimer dans ses veines, on aimait les champs, on aimait les gens, on aimait les vallons, on aimait les montagnes, on aimait les lacs. Et la Suisse, c'est pareil, c'est un pays magnifique. D'ailleurs, tous nos pays d'Europe sont magnifiques, il faut bien le dire. Bon, par les paysages, par la douceur du climat, par les magnifiques monuments, par l'art, etc. Donc c'est ça aussi qu'il faut essayer de protéger, de défendre. Donc notre combat, il nous dépasse largement. C'est ce qui en fait sa beauté, sa grandeur, son urgence et sa nécessité. Okay.